Bonjour à tous. Ben, on est encore une fois content d'être avec vous. Et le ciel n'a pas été trop mauvais, hein. Il nous annonce un tas de trucs, mais finalement, la route était bonne, et c'est ça l'important. Je vais parler d'un miracle de Jésus un peu particulier ce matin, parce que c'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Mais quand même, il y a dans ce récit, comme dans tous les autres récits de miracles de Jésus, une leçon importante pour chacun d'entre nous. Je vais donc lire d'abord ce récit dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, les 20 premiers versets. Marc 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Et il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom. » Car, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mut à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Voilà une histoire bizarre. Et c'est vrai que cette histoire nous pose beaucoup de questions. Elle a eu lieu dans un territoire païen, de l'autre côté du lac, donc dans la province romaine de ce qu'on appelait la Décapole, les 10 villes, et Gadara ou Gésara, comme vous voudrez, était une de ces 10 villes de ce territoire païen, d'où les cochons. Normalement, ils n'auraient pas dû exister en Israël, mais on n'était pas en Israël, on était dans un territoire païen. Il y a deux camps en présence. D'un côté, Jésus et ses disciples. Et puis, ses disciples et Jésus pensent que la vie, le bonheur d'un seul homme, vaut bien 2000 cochons. Ça vous va ? La vie d'un homme vaut bien 2000 cochons. C'est quand même assez surprenant quand on lit cela, de se dire Jésus a fait tout ce déplacement, il a affronté la tempête, parce que si vous lisez le chapitre précédent, il y a eu une tempête, il a affronté la tempête pour justement venir délivrer cet homme. Et il y a ces deux camps en présence, d'un côté Jésus avec cette vision que je viens de décrire, et de l'autre côté, un homme qui accourt vers Jésus, mais qui lui dit « Ne m'embête pas, laisse-moi tranquille. » Et un village tout entier qui dit « Seigneur, retire-toi, va-t'en, on ne veut pas de toi ici, tu nous coûtes trop cher. » Alors, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous surprend. Et il faut remarquer que Jésus ne va pas faire un cours sur la démonologie comme on ferait aujourd'hui pour savoir quelles étaient les causes de ce malade, de cette maladie. Il ne cherche pas à savoir qui est cet homme, quelle est sa famille, comme dans la guérison de l'aveugle-né où les disciples se sont tout de suite demandé « Mais qui a péché ? Est-ce cet homme ou est-ce sa famille ?» Eh bien, je crois que Jésus a évité tout cela. Son objectif était d'atteindre un homme parmi les plus bas tombés, un homme le plus malheureux qui pouvait exister à cette époque. Et je crois que un homme qui était envahi de peur, de crainte, malgré sa force. J'aimerais parler un tout petit peu des signes ou des symptômes de la possession. Pour ce genre de maladie, on a parlé d'aliénation, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, mais qui signifie qu'il y a des liens qui empêchent la personne de faire ce qu'elle veut, de disposer d'elle-même. Mais j'aime bien la définition d'Alphonse Maillot, qui dit que cet homme était un paralysé et quelqu'un de téléguidé. Paralysé d'un côté, téléguidé de l'autre. Paralysé parce qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait et téléguidé parce qu'il était dirigé et conduit par une puissance extérieure à lui. Et je pense qu'elles existent encore aujourd'hui, ces forces-là. Ces forces d'asservissement, ces forces de dépendance, ces forces d'aliénation dont les êtres humains peuvent être victimes encore aujourd'hui et qui font qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes. Et cette définition paralysée et téléguidée dépasse le cadre de ce récit et s'adresse à nous. Oui, à nous. Sommes-nous paralysés parfois ? Parce que nous ne pouvons pas faire et nous n'arrivons pas à faire ce que nous aimerions. Et puis téléguidés parce qu'on se sent obligé de faire. Parce que tout le monde fait comme ça. Alors vous voyez bien que ce pauvre homme ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire, il parle de quelque chose de très courant, même dans notre monde aujourd'hui. Comment le considérons-nous, cet homme, quand on lit un tel récit ? Est-ce un fou ? Est-ce un malheureux? Un danger public? Pour les gens de la région, c'était un surhomme. Un surhomme qui inspirait la terreur. Rien ne l'arrêtait. Vous avez entendu cette lecture, il pouvait briser les chaînes, les fers, rien ne l'arrêtait, il se meurtrissait avec des cailloux, il hurlait, et rien ne lui faisait mal. Il vivait dans les tombeaux, c'était le Superman d'une série télé. On en ferait bien une série télé avec ça aujourd'hui. Eh bien, cet homme-là, il existait. Et puis, la liberté que ses forces semblaient lui donner n'était qu'un esclavage. C'est vrai qu'apparemment, rien ne lui résistait. Et pourtant, cet homme était esclave de ses forces qui étaient en lui. Il souffrait sans doute profondément de tous ces événements. Et malgré lui, il faisait ce qu'il n'avait sans doute pas envie de faire. Il demeurait là où il n'y avait pas d'habitation, dans les sépulcres, là où il n'y avait pas de vie, où la mort régnait. Voilà un triste tableau qui nous est fait. Mais je crois qu'il nous faut réfléchir un peu plus loin. Parce que cette histoire n'est pas morte avec les cochons. Car partout dans notre monde où on promet aux gens qu'ils deviendront supérieurs aux autres, plus grands, plus intelligents, plus libres, sans aucune entrave, alors ils seront des surhommes. Et aujourd'hui, on nous propose de devenir de ces surhommes sans aucune entrave. Tout est permis, tout est possible, sans se rendre compte qu'on devient à notre tour des esclaves, ceci dans notre vie physique, dans notre vie sociale, dans notre vie psychique, et même malheureusement dans notre vie religieuse, ça existe aussi malheureusement. La rencontre avec Jésus est surprenante. Comme dans beaucoup de guérisons, cet homme se précipite à la rencontre de Jésus. Il accourt vers lui, il le reconnaît comme le Fils de Dieu, mais à l'inverse des autres, il lui dit « Ne m'importune pas, laisse-moi tranquille ». Et c'est ça qui est surprenant dans ce récit. Tous les récits de guérison, les lépreux, la femme atteinte d'une perte de sang et bien d'autres, on va demander à Jésus d'agir pour leur redonner, pour leur rendre leur humanité. Ici, cet homme fait juste le contraire. Il supplie Jésus de le laisser tranquille, de le laisser avec ses forces, qui lui donne une puissance surhumaine. Ne m'importune pas, Seigneur. Comme pour les autres, Jésus n'a pas peur de cet homme. Il s'approche de lui et il sait qu'il a en face de lui une puissance extraordinaire, puisque quand il demandera son nom, il y aura la réponse Légion. Or, une légion dans l'Empire romain, c'était 6000 hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 6000 démons en lui, mais ça veut dire qu'il y en avait un très, très grand nombre. Et Jésus s'approche de cet homme alors que tout le monde le regarde de loin et tout le monde fuit. Et finalement, la solution va être donnée dans les versets qui suivent. Je crois que Les versets qui suivent cette rencontre avec Jésus vont nous donner la solution du problème. J'ai dit en commençant que Jésus avait affronté la tempête pour arriver là. Il a affronté une tempête pour libérer un seul homme. Vous avez remarqué ça? Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le mal que Jésus s'est donné pour atteindre une seule personne. Dans l'introduction tout à l'heure, on nous a dit qu'il cherchait une seule brebis. Mais c'est la même chose. Un seul homme, mais un homme qui était dans une misère extraordinaire. En même temps, ça semble valorisant pour cet homme. Ah, quand Jésus a affronté tous ces obstacles, il savait à qui il allait faire face. Mais est-ce que nous avons pensé à tous les obstacles que Jésus a traversés pour que nous soyons atteints? Oui, il a accepté de devenir un homme comme les autres, alors qu'il était Dieu. Il a accepté la souffrance, la rejection. Il a accepté d'être incompris, d'être rejeté et de mourir sur une croix. Il a fait tout ça pour nous. Et je crois que des fois, nous l'oublions et nous nous émerveillons parce que Jésus a traversé la mer en furie pour un seul homme. Et Jésus a fait ça pour chacun d'entre nous. Et je crois que nous devons nous en souvenir régulièrement. Deuxième détail qu'on trouve dans ce récit, c'est que dans l'échange qui a lieu avec Jésus, on sent une terrible tension qui est là. D'un côté, un homme qui voudrait être aidé, qui vient au devant de Jésus et puis qui ne le veut pas. Vous le voyez, ce tiraillement qui existe, c'est quand même extraordinaire. Au lieu de fuir, il accourt et quand il s'approche, il recule et dit « Ne m'importune pas, ne m'approche pas, laisse-moi tranquille. » C'est bien l'image de ce que Paul appelle l'homme divisé. Il fait le mal qu'il ne veut pas faire et ne fait pas le bien qu'il voudrait faire. Alors on se retrouve en terrain connu finalement avec cet homme, même si l'image est un peu forte au début. Finalement, il y a tellement de points communs avec chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on sait que Jésus a fait des choses extraordinaires et puis des fois on lui dit « Ah non, Seigneur, ne m'en demande pas trop, s'il te plaît. Ne m'importune pas, éloigne-toi un peu. » Parce que vraiment ça coûte cher de te suivre. Et cet homme, eh bien, nous rappelle du danger que nous courons tous de nous accoutumer au genre de vie qu'est le nôtre, sans essayer de changer notre façon de faire, de vivre. Finalement, quand l'Esprit Saint nous conduit, il risque de faire beaucoup de transformations. Je me souviens d'une réunion de prière dans une église en Suisse où on avait été conviés pour prier pour le réveil. Et tout le monde est arrivé, on avait chanté tous les cantiques qu'il fallait, qui parlaient du réveil. Et avant de prier, un vieil homme s'est levé. Il a dit, mes amis, avant de prier pour le réveil, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord que le réveil arrive dans votre vie? J'aimerais tant vous dire que ça a jeté un froid. On venait pour prier pour le réveil de l'église, du pays, de la ville, c'était magnifique. Et on oubliait que le réveil, il commence par nous. On sentait tellement bien comme on était. Pensez donc, on était des gens de l'église, on était des fidèles croyants, on venait tous les dimanches. Qu'est-ce que veut faire encore de plus? Et c'est un petit peu ce que nous apprend cet homme. Laisse-moi tranquille, je suis bien avec ce que j'ai. Ça risque de me coûter trop cher si je te laisse intervenir dans ma vie. Remarquez qu'il reconnaît, et les démons qui sont en lui reconnaissent en Jésus son autorité, puisqu'il se prosterne devant lui. Ils reconnaissent sa puissance, puisqu'il dit « ne nous tourmente pas ». Ils reconnaissent sa divinité, parce que face à Jésus, les démons ne peuvent rien. Ils veulent donner l'illusion qu'ils sont les plus forts, mais ils sont vaincus d'avance et ils le savent. Et ce qui est bien, c'est que les disciples expérimenteront cela un peu plus tard, et dans Luc au chapitre 10, quand ils reviennent de leur première sortie d'évangélisation, je vais l'appeler comme ça, ils disent à Jésus, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Est-ce que nous avons pensé à cela? Que toutes ces forces qui régissent le monde aujourd'hui, et nous les voyons, et parfois nous sommes inquiets de voir toutes ces forces qui sont là dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je dis toujours, on ne doit pas être surpris. On est averti que ces forces vont être à l'œuvre. On doit être peiné, c'est complètement différent. Peiné parce que ces gens courent à leur perte, même s'ils pensent qu'ils ont découvert la liberté, même s'ils pensent qu'ils sont capables de vivre comme ils en ont envie, sans limite. Il y avait eu un verset d'Ésaïe, chapitre 30, ces derniers temps, dans la lecture du guide, où il était dit que les gens s'approchait du prophète et lui dit « Ne nous donne pas des prophéties vraies, donne-nous des paroles qui nous tranquillisent. » Et mes amis, on est en plein dedans. Et comme cet homme, on dit « Mais on est bien avec cette liberté qui est la nôtre, on peut faire ce qu'on veut, personne n'a le droit de nous dire « C'est pas bien, chacun est libre ». Et c'est un petit peu l'attitude de cet homme rempli de ses démons. Mais j'en arrive au point le plus important. Et le point central, c'est ni une proclamation de la puissance de Dieu, pas d'imposition des mains. Il n'y a pas de chose surprenante. Vous avez remarqué ce qui a guéri cet homme? Une question posée par Jésus. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Et tout va changer à cause de cette question. Quel est ton nom? Vous savez que dans le monde hébreu, le nom est vraiment la plénitude de la vie. C'est derrière le nom que se cache tout notre héritage culturel, cultuel, etc. Quel est ton nom? Mais qui es-tu? Et j'aime cette question. Parce que quand le Seigneur s'approche de nous, il commence par nous dire, tu peux m'expliquer qui tu es? Quel est ton nom? Comment te vois-tu à mes yeux? Et je crois que cette question va nous pousser à un certain nombre de réflexions. Qui suis-je? Qui suis-je pour toi, Seigneur? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Qui suis-je pour toi, Seigneur? Et dès qu'on pose cette question, la première chose qui vient dans notre tête, c'est tous nos manquements, tous nos problèmes. Alors que quand le Seigneur nous dit « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? C'est qu'il a sûrement quelque chose de formidable à nous proposer. Le qui es-tu veut dire qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon âme? Quelles sont mes valeurs? C'est cette demande de Jésus à connaître le cœur de cet homme qui va changer sa vie. Et mes amis, c'est comme ça que Dieu veut agir dans notre vie. Et il ne veut pas faire des choses extraordinaires. Il veut que nous prenions conscience de ce que nous sommes en face de lui. Tout simplement. Lui dire, Seigneur, je suis comme ça. Là, il a dit, je m'appelle Légion. On s'appelle d'un autre nom aujourd'hui. Mais quand on se présente devant Dieu, on a le droit de lui dire tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ne supporte pas, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous effraie, tout ce qui est un blocage dans notre vie, parce qu'il peut y en avoir. Et ce qui es-tu, est-ce que nous l'entendons ce matin? Qui es-tu? Et je crois que c'est à nous de donner la réponse, comme cet homme l'a fait aux yeux de Dieu. On pense que la réponse a été donnée par les démons, c'est vraisemblable. Mais je me dis, si c'était cet homme, ce pauvre homme, qui répondait avec sincérité, « Seigneur, je suis esclave de nombreuses passions, de nombreuses choses dans ma vie qui ne sont pas à ta gloire, de forces étrangères qui me paralysent et qui en même temps me téléguident. » C'est un véritable message d'évangélisation. Qui es-tu? Et quand je pourrais lui dire, « Seigneur, voilà ce que je suis. » Voilà ce qui habite en moi. Voilà ce qui me perturbe. Voilà ce qui, parfois, me décourage. Alors, il va y avoir quelque chose de faramineux qui va se passer. Et je voudrais terminer en voyant quelques conséquences de cette libération. Ah, il y a des conséquences heureuses et malheureuses. Je lis, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent, donc aux gens du village qui accouraient, ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. » Première réflexion, Jésus, ça coûte cher. Mais oui, mes amis, ça coûte cher, Jésus. Ça coûte cher parce qu'on n'est pas toujours compris. On ne sera pas toujours bien vu. On peut même être considéré un petit peu comme dérangé sur les bords. Parce que c'est la première réflexion que je vois. Dans les évangiles, on voit que certains demandent à Jésus de quitter leur territoire. C'est ici le cas. On se rappelle du jeune homme riche à qui Jésus avait dit « Va, liquide tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. » Ça coûte cher, Jésus, vous ne trouvez pas? Et le jeune homme s'est en allé tout triste. Et mes amis, quand Jésus nous dit « Veux-tu me suivre ?» Et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, ça coûte cher, Jésus. Mais c'est tellement bénéfique. Alors il faut considérer le prix. Je crois qu'on n'a pas le droit de penser qu'il ne faut pas de réfléchir. Parce que ça va nous coûter quelque chose, c'est évident. J'aimerais dire un petit mot quand même sur les cochons. Peut-être ça va vous surprendre que je parle des cochons. Je pense que c'est une image saisissante. Ces démons qui nous font croire qu'on peut être des êtres surhumains, des tout-puissants, sont juste bons pour les cochons. Bêtes impures par excellence dans l'Ancien Testament. Voilà. Ces surhommes. Juste bons pour les cochons, c'est pas gentil ce que je dis. Mais Pascal a dit la même chose avant moi. Il disait, l'homme qui veut faire l'ange devient une bête. Et mes amis, aujourd'hui on constate cela, que ceux qui se croient tellement plus forts que les autres sont souvent des cochons, des bêtes, qui ne réfléchissent pas plus loin que ça. C'est quand même un point qu'il fallait mentionner. La fin de l'histoire est aussi interpellante, parce que c'est peut-être la seule fois que ça existe dans l'Évangile, cet homme qui dit à Jésus qu'il veut le suivre et Jésus qui refuse qu'il vienne avec lui. C'est la seule fois, je crois, en tout cas dans ce que j'ai recherché. Jésus refuse à cet homme de le suivre. Pourquoi une telle réponse? Pourquoi Jésus a dit non? Parce qu'il va lui donner le remède. C'est pas que tu t'engages derrière moi. Va, qu'il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens. C'est d'abord là que tu dois montrer que j'ai fait quelque chose dans ta vie. C'est pas de démarrer à l'autre bout du monde en me suivant. C'est d'abord chez toi, dans ton milieu, là où tu es, dans ton lieu de travail, ton lieu de vie, partout où tu es, c'est là que tu vas prouver que Jésus a fait quelque chose de ta vie, qu'il l'a complètement transformé. La famille n'est-elle pas le lieu où doit se manifester en premier notre vie nouvelle? Et c'est souvent l'endroit le plus difficile. Mais c'est quand même comme ça. Et tout ce récit nous amène à des conclusions terriblement précises en ce qui concerne notre vie avec le Christ, qui nous rappelle qu'on peut être téléguidé, qu'on peut être paralysé, qu'on se trouve bien là où on est, qu'on n'a pas envie de changer. Et puis il dit, moi je veux te changer, je veux que tu deviennes un homme, une femme nouveau, nouvelle, et que ça se manifeste d'abord dans ta maison. Je termine par 5 leçons à retenir. La première, y a-t-il des entraves, des asservissements dans nos vies? Ou bien nous croyons-nous plus forts que tous les autres? Plus forts en tout cas dans nos paroles, alors que nous savons au fond de nous-mêmes que nous sommes bien faibles, bien petits, que nous sommes souvent esclaves de ce qui dirige nos vies. Que désirons-nous, chacun d'entre nous ce matin, que désirons-nous être délivrés? Ou bien sommes-nous habitués à ce genre de vie et ça nous perturberait d'en changer? Deuxième leçon. Est-ce que nous vivons dans une crainte perpétuelle? Des démons de toutes sortes, imaginaires ou réels? Sommes-nous prêts à en payer le prix pour en être débarrassés? Troisième leçon. Avons-nous réalisé que tout ce qui laisse croire à l'homme ici-bas qu'il pourrait être plus qu'un homme, et surtout plus que les autres, est juste bon pour les cochons? Ce n'est pas très flatteur, mais c'est une triste réalité. Quatrième leçon, c'est la chose la plus importante de ce récit. Avons-nous entendu cet appel du Christ qui nous dit « Quel est ton nom ? Qui es-tu réellement ? » Oserons-nous lui dire ce qu'il y a dans notre cœur ? Ou nous allons rester avec des prières vagues et superficielles ? « Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu nous aimes. Oh, j'aimerais tellement faire ta volonté. Amen, merci. » Se trouver devant Dieu quand il nous pose cette question « Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ? » Ça fait mal parfois. Ça fait mal parce qu'on est obligé de lui dire à Dieu « Voilà qui je suis en réalité. Voilà ce qui me perturbe. Voilà les peurs qui règnent en moi. Voilà les choses qui me bloquent. » Rappelons-nous, il ne va pas nous forcer. Il frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Qui es-tu ? Est-ce que nous allons le laisser entrer ? Il ne force pas la porte. Il attend que nous ouvrions cette porte. Et à ce moment-là, il entrera, nous dit ce verset d'Apocalypse. Il soupera avec nous et nous avec lui. Et sa paix emplira nos vies et nos cœurs. Que notre vie aussi, c'est la cinquième et dernière leçon, se manifeste en tout premier lieu dans notre vie familiale, scolaire, professionnelle, tout ce que vous voudrez. Cet homme a obéi. Il a obéi même plus que le Seigneur le lui demandait, parce qu'il ne s'est pas cantonné à sa famille, il l'a fait. Mais les versets nous le confirment, il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des dix villes, donc la Décapole, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de tous ceux qui l'entendaient. C'est là que les gens vont être étonnés. Ils ne vont pas être étonnés par nos messages, ils vont être étonnés par notre vie, par notre façon de nous comporter. Un handicap vaincu, comme dans ce cas-là, même chargé, peut être surmonté et devenir un précieux atout dans notre témoignage, dans notre vie. Voilà la dernière question. Sommes-nous pour ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons, un sujet d'étonnement? Qu'il en soit ainsi. Prions. Seigneur, tu nous rappelles ce matin que tu as fait et tu as vaincu beaucoup d'obstacles pour venir jusqu'à nous, pour nous sortir de notre état, pour nous faire entrevoir quelque chose de ta puissance, de ta vie en nous. Alors s'il te plaît, quand tu nous dis « Qui es-tu ?», que nous ayons l'honnêteté de nous placer devant toi tel que nous sommes, pour que tu transformes nos vies et que nous devenions, là où tu nous as placés, un sujet d'étonnement pour ceux qui nous entourent. Que ta gloire puisse transparaître, même avec nos pauvres vies, Seigneur. Tu peux le faire et nous te demandons vraiment de nous équiper pour que dans ce coin de pays de France, ton nom soit révélé à beaucoup de gens par notre conduite. Reçois notre reconnaissance parce que tu veilles sur nous jour après jour et tu veux nous libérer de tout ce qui essaye de nous paralyser ou de nous téléguider. Seigneur, fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Amen.